Hey. Ouais, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de la montagne. Du coup, je vais expliquer un peu ce qu'on va écouter là dans l'heure qui suit. Moi, je suis en Ardèche depuis 2 semaines. Je faisais à manger sur un tournage dans une miellerie à Hâcon qui s'appelle la miellerie du Boisserie. Voilà, allez checker. Et du coup, ça commence par des bruits d'ambiance de ce tournage. Puis ensuite, je suis allée marcher en forêt avec Christian, qui est l'apiculteur voilà, le gars chez qui on est là, et qui a aussi une forêt, du coup une activité de sylviculture. Donc voilà, il raconte un petit peu tout ça. Il y a un morceau de gamelan qui vient s'intercaler au milieu de cette promenade, conseillé par Will, mais je sais plus qui c'est. Ensuite, ensuite, il y a un morceau de pierre, pierre, pierre avec des abeilles. Voilà. Et après, il y a la maman de Chloé, marseillaise, qui nous donne sa recette de gnocchi. Voilà, elle a été super claire, merci beaucoup. Ça donne faim. Voilà, salut, bisous. On se voit sur le chat, peut-être.
Non guéré nos retournerons. Non la laigne, non ali. Et non guéré nos recogérons. Mais non l'avance, promis de les aider, non. Genderes, de la pousse et de la sée. Veille si lavé. Trox, trox, daimon. Daimon, permis. Il touche au grand feu. Qu'il regarde. Encore. Qu'il regarde.
Coupé. Oh! 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 Ah oui, pas un cri, ouais. Un chat.
Ouais, un truc.
Un son, quoi. Plutôt un son, ouais.
Mais ouais.
Ouais, plutôt qu'un cri, parce qu'un cri, je vais être obligé de faire
un. Limite, t'es un peu. Content de les voir, en fait.
Oh!
Ouais, oui, c'est vrai que tu peux.
Non, mais
oui, parce qu'en fait, t'es dans ton autre personnage. T'es juste. C'est comme si t'étais.
Oh!
Tu t'étais réveillé, ouais. Non, ça peut, ça peut, ça fonctionne. Il y a un truc un peu schizophrène.
Ouais, parce qu'en fait, vu que c'est pas vraiment de la peur, pas vraiment du surprise, c'est rien en fait.
C'était pas toi avant.
C'était.
Des trucs, tu vois.
En tout cas, plus animal.
Ouais, c'est ça.
Pintade, quoi.
Ouais, voilà. C'est exactement ça. La poule, quoi.
Ok.
Ok, on va.
Ok.
Action!
Non!
Non, on refait, ça va pas.
T'as un pont?
J'ai pas tourné assez.
Eh?
Il est parti. Pourquoi t'es parti?
Bah, je sais pas.
Ouais, Julien, tu joues Samuel. Non.
Oui.
Sam.
Oui.
Il s'appelle pas Samuel.
Ouais.
Samuel Gamel.
Sam.
Samuel. Non, je crois que c'est pas Samuel, c'est Sam.
Oui, c'est Sam.
Tu l'aimes bien?
Pas spécialement.
Ah ouais,
moi j'aime pas trop en fait.
Le carotte,
il est un peu énervant.
Il est mou. Dans mon souvenir, il est très mou.
Mmh.
Il est surtout pas très sympa, je crois. Avec le long, ça.
Bah, il est en fait, ouais, il a des qualités aussi. Il est hyper. Il a un amour. Une amitié inconditionnelle pour son fidèle compagnon.
Frodon.
Frodon, ouais. Mmh. Du coup, il est brave. Enfin, il a une sorte de bravoure. Mais bon, il est un peu envahi par des sentiments de jalousie, de ressentiment un peu. Mais bon, c'est normal avec l'anneau. Qui ne le serait pas?
Le golem, partir en rando avec le golem, c'est pas...
Ouais, c'est pas facile donc.
C'est surtout
fly.
Marion, tu peux te reculer un tout petit peu pour que je te vois? Ouais, parfait, là je te vois. Tu vois là, c'est bien.
J'entends tout ce qu'il dit, j'entends tout ce qu'il dit. Il croit que j'entends pas, mais j'entends, il dit des trucs sur nous.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Écoute quoi, t'as vraiment.
L'ambiance de la vie.
Ils sont en train. Ouais. Marion, elle est en train de dire que c'est de la merde de brûler le sac et que c'est peut-être pas bien et qu'il faut pas qu'il brûle parce que c'est trop polluant.
C'est vrai?
Et que les gens qui regardent le film, ils vont.
C'est vrai?
Ça
c'est vrai?
On entend ce que vous dites!
Allô, allô?
Allô?
Ici Marion.
Marion qui joue Frodon. Qui va nous dire ce qu'elle pense de Frodon.
Alors, première chose, j'ai une confession à faire. J'ai pas vu aucun des films du Seigneur des Anneaux.
Mm-hmm.
Donc, déjà, ça. Ça aide pas quoi avoir un avis sur Frodon, mais je pense que ouais, ça m'est à peu près indifférent. Et de ce que j'ai vu des extraits, ben je trouve qu'il joue bien et qu'il a l'air sympa.
Ok, merci. Du coup, t'es bien dans la peau de Frodon?
Ça, je sais pas, je suis dans ma peau.
Thank you.
Une trace.
Bon bah. Normalement, on traverse ce petit bois là et après on remonte jusque. Enfin, le sentier de la forêt, il monte jusque un bois de sapin au milieu du Cernon.
Ouais.
Celle-là, là, de forêt, là.
Ouais.
Elle est.
En fait, elle est récente. Parce que moi, quand j'étais gamin, c'était, ils n'existaient pas, ces arbres. C'était la même sorte d'arbre, ça s'appelle des douglas.
D'accord, un pin.
On dit, ouais, c'est un pin. Souvent, on dit sapin douglas, mais c'est un pin. Je ne me rappelle pas la taille des arbres quand j'étais gosse, mais je sais quand on venait jouer, là, ici, là. Et il n'y avait que des aiguilles. C'était pas. Enfin, j'ai pas un souvenir de la taille des arbres. Je suppose qu'ils étaient déjà bien gros. Parce que 10 ans après, ils ont été tous coupés. Ça a été tout rasé, en fait. Et moi, je me souviens juste qu'il y avait un tapis d'aiguilles, c'était doux, qu'on courait là-dedans, hein, qu'il y avait des endroits où les arbres avaient été déracinés. Ça faisait comme des nids, ça faisait des petits trous, là. Et on jouait là-dedans. Et après, ben parce que je suis parti, j'avais 6 ans d'ici, et quand je suis revenu, j'avais 22. Et là, c'était impénétrable, en fait, ça avait été replanté. Forcément, il y avait aussi la broussaille qui avait poussé. Et voilà, maintenant, ces arbres, ils ont 40 ans, à peu près. Hein. Alors, et là, c'est la deuxième génération donc, de douglas. Et il y a une volonté de changer le mode de gestion, parce qu'en fait, c'est nouveau comme arbre, le douglas, et ça a été planté pour faire des dollars.
Oui, c'est ça, il y a un rapport financier.
C'est,
quoi.
Ouais, c'est un arbre qui est très rentable, qui est très égoïste, parce qu'il capte toute la lumière. Il ne laisse rien pour les étages en dessous. Hein. Du coup, le fait qu'il capte toute la lumière, du coup, il pousse très vite. Mais la façon dont il a été cultivé, comme il est nouveau, il a été planté en nombre important, en grosse densité sur les parcelles. Et du coup, il couvre tout, dessous, il n'y a plus rien qui pousse. Et ils ont tous le même âge, en fait.
Ouais,
le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont tous le même âge. Il faut arriver, si on veut une forêt qui se régénère, il faut arriver à ce qu'il y ait des arbres de toutes les tranches d'âge.
Okay.
Donc ça va se faire petit à petit. Quand il y a une tempête, il y en a 5-6 qui tombent, ça fait une trouée, du coup ça fait de la lumière qui rentre là où ils sont tombés, ou on va le provoquer, on va peut-être faire des éclaircies un peu sévères par endroit là, de façon à ce que la lumière elle vienne jusqu'au sol et qu'il repousse des arbres douglas ou autre, hein, ça peut être
que toi douglas. Tu vas planter ou
non qu'ils vont repousser naturellement, ça va, ils vont pouvoir se ressemer s'il y a de la lumière, enfin il y a des graines partout, mais s'il n'y a pas de lumière, elles n'arrivent pas à lever.
Okay.
Donc il faut qu'il y ait suffisamment de lumière au sol pour que les jeunes plants puissent pousser. C'est l'objectif là de la gestion de, en fait c'est un changement de gestion qui est, on peut pas dire général, mais en tout cas il y a une volonté de beaucoup de forestiers de passer à ce mode de gestion qui est naturel et qui se régénère tout seul, qui ne demande pas énormément d'énergie, parce que quand tu fais une coupe blanche, derrière il faut replanter, si tu n'as pas de chance et qu'il fait des années sèches, il faudrait arroser ou il faut replanter 2 fois, 3 fois. Et avec l'évolution, là, changement climatique, le réchauffement, là, si on n'a pas des forêts qui se régénèrent tout seul, ça va être très compliqué. Sans doute en rentabilité à court terme, le système de planter en grosse densité et de faire des touffes blanches, c'est sûrement à court terme c'est plus rentable. Mais à long terme c'est catastrophique parce que tu fais ça 2 fois et la 3e fois ça marche pas. Donc la 3e fois il faut apporter de l'engrais ou il faut. Donc de toute façon, si on veut quelque chose de durable, la forêt normalement, il n'y a jamais besoin de lui apporter quoi que ce soit. Ça a fonctionné pendant. C'est même les forêts qui ont créé les sols. Les sols agricoles, ils ont été créés par les forêts. Ça veut dire qu'on a prélevé du bois tout le temps. Les hommes, ils ont tout le temps prélevé du bois, même à certaines périodes trop. Et malgré ça. Ça a toujours poussé. sans qu'on apporte quoi que ce soit. Et là maintenant, avec ce système de planter des arbres comme des poireaux et de faire des coupes blanches, il y a des régions, hein, comme le plateau de mille vaches, où ils sont obligés d'apporter, de traiter, à cause de parasites du bois, d'apporter de l'engrais pour que ça pousse correctement. Et ben, c'est pas normal. Ouais. Puis nous, on n'a pas le choix, on est dans des zones de plantes. De toute façon, on ne va pas se mettre à considérer la forêt comme une culture, comme une agriculture. Ouais, en haut, là, en fait, là où tu vois des terrasses, c'est qu'il y avait de l'agriculture.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ouais, et puis la forêt a repris ses droits, mais il reste la trace de la période agricole, quoi, cultivée.
Mais parce que là,
parce qu'il y a eu une période où il y avait énormément de... C'était très peuplé, là, cette zone de l'Ardèche, il y avait une densité de population qui était à peu près comme en Hollande. Des familles très nombreuses, des maisons hyper pleines, qui vivaient tous de... presque une autarcie, donc ils vivaient tous de l'agriculture. Du coup, tout était la moindre parcelle de terrain où il y avait un peu de terre, c'était cultivé, soit pour faire des patates, soit pour faire du seigle, soit pour enfin, en tout cas pour se nourrir. Ouais. En fait, il n'y avait pas de sapin, il y avait soit de l'agriculture, soit des châtaigniers, parce que les châtaigniers ça permettait de se nourrir l'hiver. Et les sapins, c'est arrivé après quand il y a eu la déprise agricole. Quand les paysans sont partis, pour pas que le. En fait, pour pas que le terrain serve à rien, c'était. Comment dire, c'est une. Ouais, c'est un peu une tradition. C'est pas une tradition, mais c'est un mode de pensée agricole. Tu peux pas laisser un terrain qui sert à rien, quoi. Du coup, ils ont planté des sapins. Du coup, ça a transformé le paysage. On est passé de. En fait, un peu comme le plateau du mille vaches, enfin, pas tout à fait, pas dans la même proportion, mais on est passé d'un système agricole avec où il y avait trop de monde et trop de prélèvements sur pâturage à un système où c'est la forêt qui petit à petit qui grignote tout.
Et là, il y a différentes essences de bois ou il y a une majorité de douglas, quoi.
Dans ce qui a été planté, c'est une majorité de douglas. Il y a eu des essais d'autres essences comme le sapin grandis. Qui en fait c'est pas du tout adapté et dès qu'ils arrivent à 30-40 ans ils meurent, il y a un parasite qui les attaque là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des épicéas un peu, c'est pareil, c'est pas assez haut, c'est pas adapté. Peut-être il y a des périodes un peu trop séchantes et ils n'arrivent pas à un âge mature, si on peut dire. Ouais, après, moi, avec mon approche d'apiculteur, j'ai surtout planté des arbres qui font des fleurs. Du coup, les résineux, j'en ai pas planté un seul. Parce que je pense beaucoup aux abeilles. Du coup, j'ai planté des tilleuls, des érables, des acacias, des merisiers. Avec un peu dans l'idée de. C'est à la fois une production de bois, à la fois une production de fleurs pour les abeilles. Et puis une utilisation du bois pour le bois de nettoyage, pour pailler les vaches, pour vous chauffer la maison.
Il y a du bois, tu fais du bois d'œuvre, genre pour la menuiserie
On n'en fait pas encore en fait, parce que les arbres sont en train de... C'était un des objectifs, je me rends compte que c'est quand même pas évident, parce que c'est un peu des arbres isolés qu'on a plantés. Du coup ils ont tendance, comme ils ont de la lumière partout, ils ont tendance à faire des... beaucoup de branches, tu vois, par exemple ce merisier là, il a un tronc qui est valable pour faire du bois d'œuvre sur à peine 2 mètres. Et après tu as des grosses branches. S'il avait été en forêt, il aurait fait un fût de 6 mètres de haut, 6-7 mètres de haut. Et là, comme il est tout seul, il a tout de suite fait des branches. Il aurait fallu que je suive bien et que dès que les branches arrivent à un diamètre supérieur à 2-3 cm, que je les coupe. Qu'il ait le temps de cicatriser, tu vois, il y a des branches qui ont été coupées, il essaye de cicatriser. S'il arrive à recouvrir la blessure, le bois à l'intérieur, il va rester de qualité.
Okay.
S'il n'arrive pas à la recouvrir assez vite, ça va faire une partie qui va pourrir, et ça fera un défaut dans le bois. Ouais. Donc, Il y en aura quelques-uns qui feront du bois d'œuvre, ça fera du bois pour faire du tournage par exemple, ça peut faire. Mais bon, déjà, ça fait... c'est très joli dans le paysage. Et ça fait du feuillage pour les bêtes l'été s'il fait trop chaud, trop sec, les étés trop secs. Et puis après, derrière, ça fait du... Comme on est dans une région où il n'y a pas du tout de paille, ça fait du bois comme des chiquettes pour tailler les vaches l'hiver. Thank you.
La ferme, elle représente 20 hectares. Et la forêt familiale, si on peut dire. Enfin, il y en a une partie à mes frères, il y en a une partie une SCI, puis une partie en nom propre avec Catherine. En tout, la forêt, il y a 55 hectares, à peu près.
Qui est un truc qui était familial, en fait.
Qui était familial, voilà, qui était mon arrière-grand-père. Puis après, ça a été partagé. Et puis là, c'est en train de se re-rassembler.
Avec des bouts qui sont isolés à certains endroits.
Avec, ouais, il y en a un peu éparpillé dans le Sterrandon, toute la montagne. Hein. Mais c'est quand même assez groupé. C'est assez favorable pour l'exploitation des bois ou pour organiser un sentier comme ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de faire. Ça se touche. Il y a beaucoup de parcelles qui se touchent.
Et du coup, là, quand t'étais petit, t'habitais là.
J'habitais là.
Ailleurs.
La maison qui allait voler vers là, tu vois, en dessous de la route. Et puis, ben ouais, à l'âge de 6 ans, hein, on m'a déraciné. On m'a replanté en Provence. Et ça n'avait pas pris complètement. Hein. Du coup, je suis revenu. J'avais pas mal de variétés d'arbres. Ça, c'est des aulnes. Il arrive à pousser quasiment dans l'eau. Comme on a pas mal, la montagne elle absorbe bien l'eau et ça ressort à ces étages là. Donc il y a des zones un peu narceuses qui sont tout le temps humides. Et cet arbre là, l'aulne, là, il arrive à pousser les pieds dans l'eau.
Il y a des feuilles toutes fines.
Pour l'instant, mais après c'est épaissi. C'est intelligent, ça augmente l'eau. La forêt elle gagne, ouais. Ça dépend des régions. Ouais. Des régions de déprise, comme ici, ça gagne plutôt par l'abandon de terrains agricoles qui sont compliqués, qui sont pas rentables. Quoi. Quand il y a un éleveur qui arrête, s'il n'y a pas quelqu'un qui reprend tout de suite derrière, et ben, y a des petits frênes qui poussent, des bouleaux, des zones dans les endroits humides. Et puis ça devient une forêt. Tu vois même plus que. Au bout de 10 ans, tu vois même plus que c'était un terrain agricole. Ça y est, c'est un bois. Là, on va monter à gauche. Là, tu vois cette partie là, c'était un verger de châtaigniers.
Il y a quand même 50 ans, hein, pardon, 40-50 ans. Et bah depuis 40-50 ans, les châtaignes ne sont plus ramassées, les châtaigniers ne sont pas entretenus, donc c'est en train de. Même on peut dire que c'est devenu une forêt. Il y a des merisiers, il y a des frênes qui ont déjà 20 ans. Et il y a les restes de. On voit les châtaigniers greffés là qui sont encore au milieu, mais qui sont en train de mourir petit à petit. Hein. Il commence à y avoir des résineux aussi qui poussent au milieu. Voilà, ça devient une forêt un peu mélangée.
C'est quoi la définition d'une forêt?
Alors, moi je dirais que c'est un peuplement d'arbres. Peut-être qu'il couvre pratiquement le sol, quoi. Je sais pas, c'est une histoire d'une surface minimum pour être considéré comme une forêt.
Et t'arrives à te rappeler comment c'était il y a 10 ans?
Il y a 10 ans, non.
Ouais.
Non, parce qu'en fait, comme ça évolue doucement, et ben, je ne me rends pas compte. Je me rends compte par rapport à quand j'étais enfant, mais là maintenant, je m'en rends compte sur les arbres que j'ai plantés, de l'évolution. Ben là, sur ces, par exemple, ces plantations de Douglas, là,
J'étais petit quand j'étais enfant. Hein. Et ben maintenant je m'en rends pas compte parce que là, ceux qui sont marqués avec un trait orange, ils vont être coupés. Et en fait, ils vont en couper une dizaine hein, sur cette parcelle. Et ben, ça se voit pas trop après. Ça fait juste un petit peu plus d'espace pour ceux qui sont autour. Et ce qui fait que maintenant, ben, il en reste toujours des gros. Et petit à petit, il y en aura des un peu plus jeunes qui vont pousser. Ou ceux qui étaient trop serrés là, qui sont encore petits, qui vont profiter de la lumière. Donc ça fait pas de changement vraiment notable. Quand tu regardes au sol, c'est pas très vivant, hein, parce que c'est juste des branches mortes, il n'y a pas de vie. Les sols déjà ils fonctionnent pas trop mal parce que moi, chaque année ils perdent des aiguilles et quand un sol il fonctionne pas et ben ça s'accumule les aiguilles, ça va pas se transformer. Alors que là on voit que la couche d'aiguilles elle est fine, donc c'est transformé par des champignons, des bactéries. On est bientôt en haut. Était presque avant. Là, c'est un tout petit bout de. C'est un bosquet, on pourrait dire. Je sais pas si moi j'appelle ça une forêt, mais c'est pas grand. Et c'est un endroit où il y a des sapins pectinés qui ont dû se ressemer il y a 60 ou 70 ans. Ils ont dû se semer naturellement. On voit que c'est des terrasses, donc ça devait être cultivé. On est quand même assez haut dans la montagne, mais ils cultivaient même beaucoup plus haut que ça. Il y avait un papy là, quand j'étais gamin, qui disait à mes parents qu'ils faisaient du seigle quasiment en haut du Saint-Andon. Ils cultivaient du seigle, donc à mille et quelques. Donc ici c'était sûrement cultivé aussi. Et il devait y avoir un gros sapin un peu plus haut. Quand je dis sapin, c'est du sapin pectiné, c'est le sapin de montagne. Il a les aiguilles qui sont opposées, c'est celui auquel on pense quand on dit les sapins de Noël. Ouais, ça a dû se semer, ils ont bien poussé. Et c'est en train de gagner. Et en dessous, il y a une châtaignerie. On voit encore les anciens châtaigniers là. Et ben, ces arbres-là sont en train de se ressemer. Et ça pousse au milieu des châtaigniers. Donc elle gagne petit à petit la petite forêt de sapins pectinés. Après, c'est fragile parce que on est un peu bas là. Et normalement, c'est un arbre qu'on trouve plutôt sur le plateau Ardéchois, à 1100, 1200 mètres d'altitude. Et là on est à peine à 800 et du coup il y en a déjà qui ont tendance à mourir au milieu là, maintenant ça fait une clairière hein. Il y en avait 7 ou 8 qui étaient morts et ça va sûrement gagner petit à petit, alors je sais pas, on verra. À mesure qu'ils meurent on les coupe et on les scie pour faire des planches parce que c'est un bois qui est intéressant, qui est assez léger.
Il met combien de temps à sécher?
Une fois scié,
ouais.
On compte à 1 cm par an. Le plateau Ardéchois, c'est bah, quand on continue à monter la vallée, on arrive à Mézillac et derrière là, le Gerbier de Jonc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le plateau Ardéchois. C'est assez vaste, le plateau, il va presque jusqu'au niveau d'Annonay et il descend quasiment jusqu'au niveau d'Aubenas. C'est toute la zone de montagne, le haut des vallées. Un plateau avec pas mal de prairies et des forêts, des très jolies forêts de sapins pectinés. Ouais. Découvert il y a à peine 2 ans. Pourtant, je la connais bien, la montagne. Et jamais fait gaffe qu'il y avait cette petite enclave là de sapin. En fait, quand on passe sur la piste, elle est pas loin la piste, elle est à peine à 50 mètres au-dessus là. Mais il y a un écran d'un mélange d'arbustes et d'arbres, tu le vois pas. Et puis en bas, il y a cette châtaignerie qui est un peu envahie par des repousses de différentes essences. Du coup, on la voit pas. Là j'ai un peu hésité, soit laisser faire comme une forêt naturelle, quoi, où on n'intervient pas. Et puis je me suis dit que quand même J'aimerais bien qu'il y en ait qui restent vivants, donc je suis venu couper ceux qui étaient morts pour les enlever, pour enlever un peu les parasites.
Ben, la pression des parasitaires, c'est, ils ont 70-80 ans là, ces arbres, mais c'est jeune pour un arbre.
Un sapin pectiné, il peut vivre 300-350 ans peut-être. Donc c'est un problème sanitaire qui arrive trop tôt. C'est quand même une fragilité, soit à cause de l'altitude. Le réchauffement, je ne suis pas sûr, parce qu'on est face nord de la montagne, ça ne souffre pas trop. Il y a des forêts de sapins qui sont plus au sud et qui résistent. Il y a une bande de douglas là, qui monte, et au-dessus de la bande de douglas, ça n'a jamais été... j'ai pas l'impression que ça a été entretenu ni exploité, et du coup il y a un mélange d'essence avec quelques chênes, quelques châtaigniers, des sapins pectinés, quelques douglas, qu'est-ce qu'il y a, des hêtres. Et ça fait longtemps qu'ils poussent, du coup dessous c'est assez ouvert, c'est des arbres qui sont un peu âgés. Et c'est assez joli, hein, comme forêt. Alors, ce sentier, on l'a appelé le chemin des géants.
Des ?
On l'a appelé le chemin des géants. Parce qu'il y a... Il y a... Sept douglas, là, en fait, qui sont énormes. Hein. C'est les plus vieux, je pense, de la commune. Ils font, ils font 4,20 m de circonférence. Ils doivent avoir une centaine d'années. Je suppose que c'est les premiers douglas qui ont été plantés. Le propriétaire, là, il a dû ramener 5 plants et les a mis en bordure de sa parcelle. Et après ça s'est ressemé, c'est-à-dire ceux qui sont... C'était un pré là. Il avait dû en mettre un peu le long, hein. Une dizaine. Il y en a qui sont tombés déjà avec le vent un peu. Je pense qu'il y a des souches d'arbres de la même taille que celui-là. Là. Ils sont peut-être à la figure. Et donc ils ont dû pousser. À 30 ans, ils ont, le pré il a été abandonné, donc ils se sont ressemés un peu derrière dans le pré. C'est une petite parcelle qui fait même pas un hectare, dans laquelle il y a un joli mélange. Il y a des pins, il y a des châtaigniers, il y a les ressemis de douglas là, qui ont repoussé, les arbres qui ont repris. Et puis il y a toujours ces gros qui sont en bordure et qui ont leur tête au-dessus des autres. Et qui ont 100 ans, mais on voit aux fissures qu'il y a dans les écorces, c'est des arbres qui sont en pleine croissance.
C'est encore des petits jeunes.
C'est des petits jeunes encore, oui. C'est un peu comme s'ils avaient 18 ans. Ouais. Et on voit qu'ils sont en bonne santé. Comme ils étaient tout seuls, ils ont fait beaucoup de branches.
Waouh, c'est ouf.
Ouais. Alors, je reste, c'est bien que... Enfin, ça, pour un forestier, c'est des arbres qui sont bien trop gros. Ils sont difficilement valorisables et c'est leur chance maintenant. C'est qu'un scieur, il aime pas avoir des gros arbres comme ça.
Ouais, c'est ça, je me demandais quel était l'avantage ou l'inconvénient de garder des... L'intérêt ou le désintérêt plutôt. D'avoir des grands arbres, des vieux... Enfin bref, des jeunes ou des vieux arbres.
Ouais. Ben, au niveau qualité du bois, c'est vachement mieux des arbres comme ça là. Parce que il y a peu d'aubiers, il y a un gros pourcentage de bois de cœur. Et c'est celui qui est le plus durable. Après, au niveau facilité pour le sillage, c'est peut-être un peu compliqué pour eux, parce que pour le monter sur le banc de scie, ça, c'est énorme. Des fois, leurs scies, elles ne sont pas prévues pour passer des diamètres comme ça. Surtout qu'ils travaillent beaucoup d'arbres qui arrivent du Canada, d'autres pays, et qui font à peine 30-40 cm de diamètre, donc ils sont un peu adaptés à ce type de bois. Mais après, pour la forêt, c'est un non-sens de ne pas laisser des arbres grossir comme ça, quoi. C'est vraiment dommage de couper des arbres à 50 ans.
Ah, Enfin, merci, c'était trop beau.
Voilà, on a fait le tour.
Je suis contente d'avoir... Peut-être aller marcher tôt aussi, je crois.
Ouais, ça réveille, ça réveille, ouais. Ça met bien. T'as réussi à... Pour le son, ça a été...
Thank you.
disais bonjour, moi je m'appelle Amélie.
Ah bonjour, ma belle Hélène.
Ok, enchantée. Chloé, elle a eu l'idée de t'appeler pour enregistrer une recette.
Oui.
Voilà, de ton choix.
Voilà, on a parlé avec Chloé des gnocchis maison, des gnocchis en sauce tomate. Donc là, je sais quoi, je te donne le déroulé de la recette,
Bah ouais, le déroulé de la recette, puis si t'as des anecdotes, elles sont bienvenues.
Des anecdotes autour de ça, à part les effets catastrophiques qu'on peut avoir au départ quand on essaye de les former, donc pas vraiment. Alors bon, il faut se dire que travailler avec des pommes de terre vieilles, c'est mieux. Et des pommes de terre qu'on pose telles que avec leur peau dans le four pour les faire cuire, c'est mieux aussi. C'est l'idéal parce qu'elles vont se sécher.
D'accord. C'est quoi des pommes de terre vieilles ?
Les pommes de terre vieilles, ce sont déjà des pommes de terre qui ont moins d'eau que les autres. Et le fait de les cuire comme ça dans leur robe, dans le four, mais pas dans du papier d'albal, hein, comme font certaines personnes, sur la plaque du four, ça permet de les sécher davantage. Alors il faut savoir qu'à la fin, quand on va les peler et qu'on va les réduire en purée, il faut qu'on en ait un kilo dans la recette.
Et quand voilà,
En purée, soit avec un presse-purée manuel, soit à la fourchette. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre ça dans un robot ou dans un truc qui va mécanique qui va tourner parce que ça va fabriquer quelque chose de gluant et de pas exploitable. Hein.
Ok. Et maman, moi j'ai pas bien compris quand tu dis des patates vieilles, c'est une race de patates ou c'est juste qu'elles sont vieilles, elles sont âgées quoi.
Il y a des patates, on appelle ça des patates farineuses. Il y a des pommes de terre, quand tu vas acheter, ce sont celles qui vont avoir la peau plus foncée. Et elles ont souvent plein de terre autour. Pas celles avec la peau claire, voilà. Pas toutes ces races de pommes de terre qu'on a inventées, Amandine, et je ne sais quoi encore, qui en fait sont beaucoup d'eau, sont gorgées d'eau, et qui ne tiennent pas à la cuisson. Donc ce sont des pommes de terre vieilles. Ce qu'on appelle des pommes de terre vieilles, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ok.
Voilà. Voilà. Et pour la recette, donc il nous faudra 2 kg de pommes de terre réduites en purée, cette purée de pommes de terre qu'on aura obtenue. Donc quand on va mettre les pommes de terre au four, il est évident qu'on en met plus qu'un kilo. C'est-à-dire 1 kilo de pommes de terre écrasées après. Hein, parce qu'elles vont déjà réduire, elles vont sécher. Et on va enlever la peau et voilà, on n'écrasera que la chair du milieu. Et en parallèle de ça, il nous faut 200 g de farine. Voilà. On a donc notre purée, notre écrasé de pommes de terre, là, qu'on va mettre dans un saladier, enfin dans ce qu'on veut. Et on va commencer par mettre les 3 quarts de cette farine, de ces 200 g. Et on va mélanger à la main. On va mélanger, mélanger, mélanger. Alors il faut que la pâte devienne molle et légère et qu'elle ne colle plus aux doigts. Mais elle doit malgré tout rester quand même humide. Donc après, s'il faut rajouter un petit peu de farine, on rajoute encore un peu de farine pour qu'elle ne colle plus vraiment aux doigts. De toute façon, après, on va travailler avec énormément de farine sur le plan de travail pour faire les gnocchis.
Les gnocchis.
Donc on arrive à avoir une boule de pâte. Une boule de pâte. Compacte dans laquelle voilà quand tu rentres les doigts se laissent des traces, elle est souple et travaillable. À partir de là, on va prendre notre pâte, on fait des boudins. On prend un morceau de pâte, avec la main on fabrique un petit boudin, on le met sur le plan de travail fariné. Il faut absolument qu'on fleurisse complètement le plan de travail. On fait un long boudin de l'épaisseur, on va dire, d'un annulaire ou d'un pouce en fonction des mains, parce que bon, moi j'ai pas des gros doigts, donc d'un pouce on va dire, et on coupe des petits segments de 2 cm, plein de petits segments de 2 cm, voilà. Avec toute la pâte on fait ça, et toujours les petits boudins et les petits morceaux sur de la farine, hein, pour pas que ça colle. Alors après, c'est là que l'astuce rentre en jeu, soit on prend une fourchette qu'on tient dans la main gauche, l'incurvé au-dessus, l'incurvé de la fourchette au-dessus. Alors, si on n'y arrive pas au début, parce que c'est vrai que c'est de l'entraînement pour le faire, on fait des petites boules et on met un coup de fourchette dessus pour qu'il y ait ces fameuses rayures sur les... Alors, les rayures, elles servent à mieux à frapper la sauce, en fait. Et c'est pour ça que le gnocchi, quand on le roule sur la fourchette, il y a un creux qui va se faire au milieu. Et ça aussi, ça aide à retenir la sauce dans laquelle on va le mettre. Après, à côté, alors, à ce stade-là, une fois que tous les gnocchis sont faits, on saupoudre des plateaux et on pose ces gnocchis dessus, hein, si on les cuisine pas tout dessus, les uns à côté des autres, toujours sur de la farine pour pas que ça colle. À ce stade-là, s'il y en a trop, on peut prendre un plateau qui va au congélateur, tout poser les uns à côté des autres et on peut mettre un plateau au congélateur. Et une fois qu'ils sont durs, on les prend, on sort le plateau, on les met dans des sacs et on garde au congélateur, cru. Enfin, cru, c'est pas complètement cru, mais en fait, disons qu'ils n'ont pas été passés à l'eau bouillante encore. C'est à ce stade-là, si on veut congeler, qu'il faut le faire. Parce que c'est souvent une grosse quantité de gnocchi, un kilo de pommes de terre. Bon, ça dépend après la tablée qu'on est, mais je sais que moi, systématiquement, j'en congèle une moitié. Ça fait qu'après une autre fois, je mangerai encore des gnocchi, sans avoir à faire toute la préparation, qui malgré tout prend un petit peu du temps. Hein. Et pour pas se leurrer. Hein. Alors après, pour ma part, à côté, c'est une sauce tomate, tout le temps. Donc sauce tomate, hein, un oignon émincé, deux gousses d'ail qui sont tapées, on a fait revenir l'oignon, les gousses d'ail, on a jeté sa pulpe de tomate dedans, on met du basilic, on peut mettre des olives noires coupées en morceaux, on peut mettre des... Enfin, on agrémente des petites tomates séchées coupées en morceaux, on agrémente comme on veut sa sauce tomate. Et une fois qu'elle est prête, on la met de côté, on va faire bouillir une grosse casserole d'eau. On va jeter, combien, j'en sais rien, mais une bonne vingtaine de gnocchi au moins. On s'imagine tapisser tout le fond de la casserole avec une dose de gnocchi. On les jette dans l'eau bouillante. Alors on a à côté de soi le plat dans lequel on va les servir à table. Une écumoire. Et alors, une fois qu'ils ont été jetés dans la casserole bouillante, d'eau bouillante, ils vont remonter, ils sont cuits. Donc on prend l'écumoire. On ramasse, on égoutte, on met dans le plat qu'on a laissé à côté. Alors, si on y a pensé, on a mis au fond du plat déjà une petite dose de sauce tomate. Comme ça, ça permet que de suite ils s'embordent et qu'ils ne se collent pas les uns aux autres. Et voilà, bon, donc comme ça, on fait tous nos gnocchi, on les met dans le plat, on couvre de sauce tomate, parmesan râpé, et après, on déguste. D'ailleurs, très sincèrement, je crois que Chloé aussi, elle doit avoir ce sentiment-là, c'est... On a l'impression de mordre dans des petits nuages. Ça n'a rien à voir avec les gnocchis qu'on trouve dans le commerce.
Ouais, je suis d'accord que c'est pas du tout la même texture. C'est trop bien.
Ah non, c'est léger, c'est très léger. C'est nourrissant, hein, faut pas se leurrer non plus. Alors parmesan pour nous, parce que voilà, on est amateurs de parmesan, mais ça peut être du fromage râpé, ça peut être aussi du beurre et du fromage râpé. Mais bon, c'est fade. Beurre et fromage râpé, ça va être fade. Pour moi, c'est fade. C'est de la pomme de terre. Hein. C'est pas plus que de la pomme de terre et de la farine. Alors après, il y a plein de déclinaisons possibles. C'est-à-dire que là où on a mis que de la pomme de terre, on peut mettre de la pomme de terre et des épinards. On peut mettre de la pomme de terre avec un fromage un peu style feta ou style, je sais pas... italien quelconque, de cet endroit-là, de cette consistance-là. Après, ça se décline de toutes les manières qu'on veut. Et là, c'est avec des pommes de terre, on peut le faire avec des légumes comme la courgeole, la patate douce, voilà, ça se décline à l'envie, comme on veut. Il faut faire des essais. Il y a des essais à faire, hein, pour mettre au point sa recette. Voilà. C'était un régal, on peut pas le cacher, hein, c'est délicieux.
Et toi, t'as appris comment à les faire, moi?
Ben, mamie, parce que bon, moi je suis quand même d'origine italienne, mais toute ma culture culinaire, elle vient beaucoup de ma belle-mère qui était italienne. Voilà, vous savez tout sur les gnocchi.
Ok, ah, merci.
Trop bien.
Thank you.